Programme de l'Université de Bordeaux 3. Deuxième année, cours de français de Monsieur Tocan. L'humanisme, première émission.
On aurait beaucoup embarrassé un artiste ou un érudit du XVIe siècle si on leur avait demandé ce que c'était que l'humanisme. Le terme n'existait pas à l'époque. Il a été introduit seulement dans le courant du XIXe siècle et avec des significations fort diverses. Le terme d'humanisme est équivoque et vague. Il désigne aujourd'hui, de façon courante, une attitude d'esprit qui met au centre de sa réflexion l'homme, la réalité humaine, et cherche à en définir et à en sauver les valeurs essentielles, vise à réaliser l'homme dans la plénitude de ses possibilités. Mais on entend aussi, sous le terme d'humanisme, un mouvement historique bien déterminé, qui commence au XVe siècle en Italie, se répand de là dans l'Europe occidentale, et a déterminé des transformations profondes dans l'art et la vie intellectuelle européenne. L'humanisme désigne alors, de façon plus précise, un mouvement de retour à l'Antiquité succédant au Moyen-Âge, dont les perspectives fondamentales étaient orientées vers la révélation chrétienne et par la révélation chrétienne. L'humanisme ne se confond pas avec la Renaissance, dont il est l'un des aspects essentiels sans doute, mais non pas le seul. Ainsi défini, l'humanie reste pourtant encore une notion vague. Il faut préciser plus exactement en quoi a consisté ce mouvement de retour à l'Antiquité, ses éléments propres et ses effets. Parler d'un retour à l'Antiquité, c'est affirmer que le Moyen-Âge s'en était détourné. Mais dans quelle mesure cette affirmation est-elle exacte ? Il faut bien distinguer deux points de vue différents, celui des hommes de la Renaissance et celui de l'histoire. Les hommes de la Renaissance ont eu le sentiment d'une rupture avec le passé médiéval, dont vous trouvez l'écho exemplaire dans la lettre de Gargantua à Pantagruel dans Rabelais. C'est de cette époque que date la division de l'histoire qui nous est devenue familière entre l'Antiquité, le Moyen-Âge, que l'on appelait à l'époque l'âge de la barbarie gothique, et la Renaissance. Mais la conscience subjective que les hommes de la Renaissance ont eue de leur époque ne peut servir de seule référence pour apprécier la réalité même de l'histoire. Les historiens modernes ont souvent remarqué que l'humanisme de la Renaissance pouvait aussi passer pour une sorte de prolongement de la culture médiévale à bien des égards. Qu'en est-il donc exactement ? Les moines, dans les couvents, recopiaient les œuvres antiques, et c'est grâce à eux que nous ont été conservées la plupart des œuvres de l'Antiquité. Mais dans l'ensemble de la culture médiévale, la culture antique est connue de façon fragmentaire et partielle. Jusqu'au XIIIe siècle, on ne connaît que la littérature latine et quelques auteurs tels que Cicéron, Virgile, Tite Live. Beaucoup d'autres œuvres sont inconnues, restent enfouis dans des manuscrits que l'on ne connaît plus. À partir du XIIe siècle, on découvre le philosophe grec Aristote, mais par l'intermédiaire de traductions latines. La littérature grecque reste inconnue, et la philosophie grecque n'est connue avec Aristote que de manière partielle, puisque l'on ignore Platon, et indirecte, puisque l'on ne lit pas directement le grec. Le Moyen-Âge utilise d'autre part la culture antique dans une perspective chrétienne. Les poètes connus sont moralisés, c'est-à-dire lus à travers les exigences de la morale et de la révélation chrétienne. Par exemple, l'Énéide de Virgile est compris comme un poème qui retrace les vicissitudes de l'âme humaine à la recherche du divin. C'est une interprétation allégorique. Pour la philosophie antique, ce que l'on en connaît est adapté au dogme du christianisme. Ainsi, la philosophie d'Aristote est utilisée par les théologiens qui la soumettent à la juridiction de leur discipline. On garde d'Aristote les notions et les idées compatibles avec le dogme, on écarte ceux qui s'opposent à la foi. Aristote est en somme christianisé. De la rencontre de la théologie et de la philosophie d'Aristote est née la scolastique, qui est la grande philosophie du Moyen-Âge à partir du XIIIe siècle. Il y a donc eu contact étroit, en ce sens, entre la pensée médiévale et la pensée antique. Mais le Moyen-Âge pratique une lecture chrétienne de l'Antiquité. Il ne cherche pas à la comprendre en elle-même, dans ses caractères propres. Par ailleurs, les hommes du Moyen-Âge n'ont pas été insensibles à la beauté littéraire des œuvres antiques, et ils s'en sont parfois inspirés. Au XIIe siècle, notamment, des écrivains ont cherché à imiter la beauté du latin classique. On retrouve une influence diffuse, souvent difficile à préciser, de la littérature antique dans la littérature médiévale, par exemple en France, dans les grands cycles romanesques qui s'inspirent de légendes antiques comme le roman de Troie. Un écrivain italien comme Dante est nourri de Virgile. Mais à la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle surtout, se produisent des phénomènes de dégradation dans les rapports de la culture médiévale et de la culture antique. Sous l'influence de la philosophie scolastique, essentiellement préoccupée de métaphysique et de problèmes de logique, surtout au XIVe siècle, l'enseignement secondaire et supérieur perd le contact avec les belles-lettres. Les philosophes pratiquent un latin de plus en plus incorrect, indifférents qu'ils sont à la qualité littéraire de leur expression. L'enseignement de la grammaire elle-même devient de plus en plus élémentaire, et au lieu d'enseigner les règles du bon usage du latin, en s'inspirant de l'exemple des grands auteurs comme Cicéron, on tente à développer une grammaire spéculative et théorique qui s'intéresse au rapport du langage et de la pensée et au fonctionnement logique du langage en général. Cette grammaire spéculative, remarquable, préfigurant parfois des recherches de la linguistique moderne, néglige en revanche complètement l'aspect esthétique du langage, l'art du bien dire et du bien écrire. Il y avait aussi, à la fin du Moyen-Âge, une crise de l'enseignement dont il importe de souligner quelques aspects, parce que c'est en réaction contre cette crise que l'humanisme à ses débuts s'est défini. L'enseignement médiéval tardif repose sur la lecture commentée des auteurs dont la liste est soigneusement définie. Mais le respect du livre tend à substituer au contact de l'esprit avec les choses le simple commentaire du livre lui-même. Coupé de ses références avec la réalité dont il parle, le livre est considéré en lui-même et devient l'objet de questions qui se transmettent de commentateur en commentateur et prolifèrent autour du texte. On ne confronte pas la pensée de l'auteur avec la réalité dont il parle, mais avec les questions qu'il a pu poser au commentateur. Un nouveau processus tend en même temps à se greffer là-dessus. Les commentateurs deviennent eux-mêmes l'objet de questions et de commentaires dans une chaîne sans fin. Le résultat pratique, c'est qu'à l'étude du texte, déjà coupé de ses références à la réalité, se substitue ou tente à se substituer l'étude d'un commentateur ou de commentateurs. C'est ce qu'on appelle la glose. Les questions se multiplient dans un foisonnement indéfini et prennent souvent un caractère absurde et délirant, dont Rabelais s'est moqué quand il a évoqué le catalogue de la bibliothèque du couvent de Saint-Victor dans Pantagruel. L'enseignement scolastique tardif perd le contact avec les choses et avec les grands auteurs. L'élève est mis en contact dans l'enseignement secondaire avec des manuels médiocres destinés à lui enseigner les rudiments du latin et des éléments de morale abstraits. Dans l'enseignement supérieur, les étudiants suivent un enseignement organisé autour de quelques auteurs, essentiellement philosophes, philosophes originaux commentateurs, et sont initiés à l'art de la dispute autour de questions subtiles dans un latin barbare. Nous pouvons mieux maintenant préciser en quel sens l'humanisme a été un retour à l'Antiquité. À partir du XVe siècle, s'opèrent des transformations sensibles dans les rapports de la culture et de l'enseignement avec les anciens, et ce sont les humanistes qui en ont été les artisans. Tout d'abord, la littérature antique est connue dans son ensemble. À la connaissance partielle et fragmentaire, souvent indirecte de l'Antiquité, les humanistes opposent l'exigence d'une connaissance complète et d'une connaissance directe. On redécouvre la littérature grecque et la langue grecque, dont l'enseignement est réintroduit d'abord en Italie, puis dans l'Europe. La chute de Constantinople et la fin de l'Empire byzantin, au milieu du XVe siècle, ont joué à cet égard un rôle important. Des savants byzantins chassés par l'occupation turque ont émigré en Italie, apportant la connaissance du grec qui s'était conservée à Byzance. Mais déjà auparavant, la connaissance du grec s'était conservée dans certains couvents de l'Italie et de l'Irlande, elle avait connu un essor et la chute de Byzance n'a fait qu'accentuer le mouvement. On se met à chercher les manuscrits, de véritables expéditions partent à leur recherche et l'on commence à créer de grandes collections de manuscrits et des bibliothèques. Le fait capital de l'humanisme, c'est d'abord la rénovation de l'hellénisme en Europe qui apportera notamment la découverte de Platon. Il en est de même pour la littérature latine. À cet égard, les contemporains ont eu un sentiment juste des choses. Il s'agit bien d'un renouveau de connaissances, facilité par la découverte de l'imprimerie, qui permet de multiplier les exemplaires et de faciliter la diffusion des œuvres. En ce sens, l'humanisme est inséparable de l'apparition du livre. Ensuite, la littérature antique est connue plus exactement. Le Moyen Âge, qui connaît la littérature grecque indirectement, et la littérature latine directement, n'a pas le souci du texte exact. Les humanistes veulent au contraire retrouver, à travers les fautes qui se sont accumulées dans la reproduction des textes de génération en génération de copistes, un texte authentique et non altéré, ou du moins aussi proche que possible du texte original écrit par l'auteur. L'humanisme introduit en Europe l'érudition philologique et la critique textuelle qui, par comparaison des différents manuscrits et des différentes versions d'un texte, cherche à restituer le texte le plus exact. C'est à partir du XVe siècle que commencent à se multiplier ainsi les premières grandes éditions critiques de la littérature antique qui sont souvent en même temps des éditions princeps lorsqu'il s'agit de textes nouvellement découverts. En ce sens, il y a bien eu redécouverte matérielle de l'Antiquité et l'humanisme a introduit un nouveau type d'homme, le philologue érudit, versé dans la connaissance des textes antiques et que l'on appelait précisément à l'époque humaniste. Connaissance plus exacte aussi en ce sens que l'humanisme cherche à comprendre et à lire le texte en lui-même sans le soumettre à la juridiction de la théologie et surtout sans l'interpréter à travers les questions et les gloses des commentateurs. L'humanisme est une volonté de retrouver non seulement la matérialité du texte correctement restitué, mais aussi la vérité propre d'un auteur compris en lui-même. C'est une volonté de retour aux sources. La chose est importante parce que l'humanisme par là est un des éléments qui ont contribué à l'apparition de la Réforme. On a voulu aussi lire la Bible en elle-même directement sans l'enfermer dans le réseau d'un tissu d'interprétation spéculaire et de commentaires postérieurs. L'Antiquité prend enfin une valeur exemplaire. Et c'est là un fait capital qui oppose la tradition humaniste au Moyen Âge, qui n'accorde pas de rôle privilégié à l'Antiquité, mais essentiellement et avant tout à la révélation chrétienne. L'Antiquité prend d'abord une valeur exemplaire en matière d'art. Il s'agit là d'un phénomène qui ne concerne pas seulement la littérature, mais l'ensemble des arts et même ceux pour lesquels le recours à l'antique paraissait impossible, comme la musique, dont on n'avait aucun témoignage direct. En utilisant les renseignements épars qu'ils avaient à leur disposition, les humanistes ont rêvé de recréer une forme de musique à l'antique, unissant étroitement la musique, la parole, la danse et le spectacle, à l'imitation de la tragédie grecque. Ce fut l'origine de l'opéra, qui apparaît à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle dans des milieux musicaux italiens influencés par les recherches des cercles humanistes. Dans le domaine de la littérature, on veut d'abord retrouver, par opposition au latin barbare de la scolastique tardive, la pureté du latin classique. La conséquence en fut d'ailleurs paradoxale. Le latin était au Moyen-Âge une langue incorrecte souvent, mais vivante. Avec l'humanisme, il reste une langue universellement pratiquée par les lettrés, et cela jusqu'au XVIIIe siècle, mais il est devenu une langue morte, figée dans une correction classique qui s'inspire essentiellement de l'exemple de Cicéron, incapable d'évoluer. Le plus important, c'est que l'humanisme a entraîné un renouvellement dans les langues nationales des formes littéraires et des thèmes dont la Pléiade est en France l'illustration exemplaire. L'apport de l'humanisme dans le domaine de l'art est donc fondamental. Les anciens sont considérés comme les grands modèles et cette idée restera essentielle jusqu'au romantisme. L'Antiquité prend aussi une valeur exemplaire dans le domaine de la vie pratique. L'humanité antique, incarnée dans les grands auteurs, tend à devenir le modèle de l'humanité. Et les œuvres antiques constituent pour les humanistes une source vivante et exemplaire pour former l'homme et l'éduquer. La conséquence immédiate fut une rénovation de la pédagogie. Les humanistes italiens, puis leurs confrères européens, ouvrent des collèges qui s'opposent aux méthodes et à l'esprit de l'enseignement médiéval. Aux manuels médiévaux et aux commentaires de style scolastique, les humanistes substituent le contact direct avec les grands textes antiques, non plus pour en faire l'objet exclusif de controverses verbales, mais comme instrument de formation humaine, un moyen d'apprendre à vivre dans le monde. On réhabilite les poètes, les historiens, les orateurs, qui proposent à travers leurs fables poétiques, leurs histoires ou leurs discours, une humanité concrète et vivante, capable d'inspirer des attitudes vivantes pour des hommes qui vivent dans le monde. Rabelais est en France. L'écho est l'un des représentants les plus significatifs de ce mouvement de réaction contre l'enseignement scolastique qui a pris naissance bien avant lui dans l'Italie. Ainsi se définit l'une des notions fondamentales de l'humanisme, celle de studia humanitatis, expression que l'on pourrait traduire par « études littéraires humaines », et celle de studia liberalia, études libérales, c'est-à-dire études convenant à un homme libre. Budet, le grand humaniste français, écrivait en 1527 « Les disciplines libérales sont aussi appelées disciplines humaines parce que, pense-t-on, elles forment mieux les mœurs que les autres disciplines. » Les humanistes ne sont pas en ce sens des historiens ou des archéologues. Ils ne visent pas à restituer les études antiques dans une perspective d'historien, mais veulent utiliser l'étude des lettres dans un but éducatif. Un humaniste italien conseillait ainsi à un élève « Dans la connaissance des choses qui regardent la vie et les mœurs, et que nous appelons pour cette raison « humanitatis studia », c'est-à-dire les études d'humanité. En tant qu'elles perfectionnent et améliorent l'homme, cherche à te faire une culture variée, multiple et universelle, et ne laisse rien passer qui t'aide à vivre comme il faut et à acquérir l'estime des autres. Mais cherche à lire ceux qui peuvent te réjouir non seulement par leur science, mais aussi par l'éclat de leur langage et leur talent littéraire. » L'éducation humaniste ne sépare pas l'apprentissage de la vie du contact avec la beauté. Dans un texte comme celui-là, on saisit la racine de toute une tradition pour laquelle les grandes œuvres du passé sont celles où s'exprime dans une forme belle et exemplaire une expérience privilégiée de l'homme dont on peut toujours tirer profit en dépit de la distance du temps. En effet, l'humanisme vit ainsi dans un rapport nouveau avec l'Antiquité. Le monde antique est ressenti comme un monde lointain, sans doute, un monde séparé du présent par la barbarie gothique, comme on disait à l'époque. Mais il est en même temps ressenti comme un monde proche, dont il s'agit de retrouver l'esprit. Les humanistes refusent un passé tout proche, celui du Moyen-Âge, et la forme de culture sclérosée à leurs yeux qui en est issue, pour trouver dans un passé plus lointain un élément inspirateur qui permette de mieux vivre, de mieux penser et de mieux écrire. Le monde antique n'est pas pour eux une terre étrangère, mais une communauté universelle, dans laquelle tous les hommes peuvent se retrouver, une communauté intemporelle en ce sens, l'exemple d'une humanité accomplie qu'il s'agit de restaurer. Tel est l'aspect essentiel de l'humanisme. L'Antiquité n'est pas tant l'objet d'une connaissance spéculative ou d'un regret nostalgique que l'objet d'une vénération, souvent presque religieuse, qui entraîne une volonté de restauration d'un monde exemplaire. La conséquence immédiate de l'humanisme a été à partir du XVe siècle, tout d'abord en Italie, puis en Europe ensuite, la diffusion massive, facilitée par l'invention de l'imprimerie, d'œuvres antiques et avec elles de thèmes de pensée antiques. La culture européenne en a été transformée. Mais deux problèmes particuliers se sont alors posés. L'humanisme voulait voir dans les anciens des modèles d'art. La pratique de l'imitation des anciens devient le moyen privilégié de retrouver le secret de l'art. Mais on a vu se développer alors une littérature néo-latine, en prose comme en poésie, qui constituait une menace pour la littérature nationale en langue vulgaire. La réaction s'est fait sentir très vite et la défense et illustration de la langue française du Bellay, parue en 1550, en offre un témoignage exemplaire. Du Bellay condamne ceux qui pensent que seules les langues antiques sont capables de servir de moyen d'expression à de grands artistes. Toutes les langues se valent, et le véritable artiste n'est pas celui qui se contente de piller dans leur propre langage les anciens, mais de faire œuvre neuve. Le problème est donc pour lui, et pour la Pléiade dont il est l'expression, d'utiliser les modèles antiques pour donner à la littérature française les grandes œuvres qui lui manquent. Mais un problème se pose, qui sera celui de la Pléiade en France. Comment imiter les anciens ? Comment transposer dans une civilisation moderne, très différente de la civilisation antique, des formes d'art, des formes de style et des thèmes anciens ? À cet égard, il faut voir dans la littérature française de la Renaissance une recherche très libre et très souple pour assimiler l'influence antique. Mais la conséquence de l'humanisme en littérature fut du même coup une rupture avec la tradition médiévale qui s'accomplit en France à partir de la Pléiade et l'apparition de formes poétiques neuves comme l'ode, l'épopée, qui font de la Pléiade l'ancêtre lointain du classicisme du XVIIe siècle. On constate déjà, dans les efforts de la Pléiade, deux grandes directions qui se retrouveront plus tard. D'un côté, c'est la tentation de l'académisme, qui consiste à chercher dans les œuvres antiques des recettes et des procédés que l'on applique de façon presque mécanique. Cette répétition stéréotypée de modèles et de procédés antiques aboutit à des échecs, dont l'un des plus significatifs à cet égard est celui de la Franciade. Ronsard a repris les procédés de l'épopée antique, il n'a pas su faire œuvre libre et neuve. Mais les regrets de Du Bellay, les amours de Ronsard, dans une forme qui s'inspire d'ailleurs de l'Italie, puisque le sonnet est inconnu de l'Antiquité, donnent au contraire l'exemple d'une assimilation personnelle de la culture antique qui aboutit à une œuvre réussie. De même, avec Jodelle et Garnier, apparaissent les premières tragédies inspirées de la tragédie antique et s'amorce l'évolution qui aboutira un siècle plus tard à la tragédie classique, création originale à partir d'un genre antique. Dans le domaine de la prose, Rabelais et Montaigne, tous les deux humanistes, offrent le paradoxe d'une œuvre qui ne répond pas à un modèle antique. Le roman de Rabelais utilise des souvenirs du folklore médiéval populaire et se développe sous une forme qui n'a pas son équivalent dans l'Antiquité. Il en est de même des essais de Montaigne. On retrouve chez eux ce qui caractérise pourtant le meilleur de l'humanisme, une culture antique qui ne gêne pas la recherche d'une forme d'expression personnelle. Les conséquences littéraires de l'humanisme ont donc été fondamentales dans l'histoire de la littérature française. C'est par lui que la littérature s'est renouvelée et a commencé à s'engager dans des directions qui aboutiront plus tard à l'épanouissement du classicisme. Mais un problème beaucoup plus important se posait dans le domaine religieux. L'Antiquité n'est pas seulement un répertoire de formes littéraires, mais aussi un monde de pensée qui n'est pas chrétien. Or, la société de la Renaissance est une société chrétienne qui connaît une très grave crise religieuse. L'humanisme se trouvait confronté par là à deux problèmes. Comment concilier d'abord l'héritage de la pensée antique et la tradition chrétienne? Et comment, par ailleurs, se situer par rapport à la crise religieuse qui aboutira à la réforme? Les humanistes voulaient former un homme qui retrouve en lui les grandes vertus antiques. Leur aspiration pouvait entrer en conflit avec les exigences du christianisme. Autour d'eux, des hommes voulaient réformer l'Église. Que pouvait apporter l'Antiquité dans cette volonté réformatrice? Le mouvement humaniste a été pris dans cette crise et nous examinerons dans la prochaine conférence comment se sont définis les rapports complexes qui se sont établis entre le mouvement humaniste et la crise religieuse de la Renaissance.